On reste un petit peu cette semaine encore avec vous, Philippe Dony et Diego Rabal. Bonjour tout d'abord.
Bonjour.
Bonjour Philippe. Bonjour Philippe.
Merci d'être, bonjour, là, Diego. D'être là tous les deux, fidèles à ce rendez-vous. Un jour, un livre, un auteur. Alors, on va rester un petit peu dans cette ambiance de Noël.
J'ai cru que vous alliez dire un givre, un jour, un auteur. Mais c'est vrai qu'un givre, un jour, un auteur, ça irait aussi bien avec l'époque. Philippe,
avec l'époque. Alors on va rester dans cette ambiance un peu de Noël. Et on avait promis à nos éditeurs de retrouver donc l'invité de la semaine dernière pour continuer cet échange.
Exactement, donc on est avec Jean-Claude Voisin. Alors, il a écrit un livre passionnant.
Bonjour.
Et bonjour Jean-Claude. Il a écrit un livre passionnant, Jean-Claude Voisin, parce que son livre, La Perse et l'Occident chrétien, histoire des martyrs perses, Abdon et Sénène, publié aux éditions L'Harmattan, dans la collection Iran en transition, dirigée par Atta Hayati. Un livre assez étonnant parce que tous les gens avec qui on discute ne connaissent pas ces martyrs perses, chrétiens, Abdon et Sénène, qui sont célébrés chaque année en France le 30 juillet lors d'une procession qui est quand même assez exceptionnelle. Bonjour Jean-Claude Voisin.
Bonjour mon cher Philippe, enfin mes chers Philippe.
Mes chers Philippe et ce cher Diego qui est à côté de nous, qui est notre...
Notre barbe locale,
et notre druide.
Oui, bon j'espère que je chante un peu mieux que
Version Strix. Tout à fait. Alors, La Perse et l'Occident chrétien, histoire des martyrs perses, Abdon et Sénène. La semaine dernière, on en était resté, Jean-Claude Voisin, donc au fait que les deux martyrs perses, Abdon et Sénène, donc, qui sont originaires de l'Empire perse, qui sont chrétiens, sont emmenés donc effectivement au sein de l'Empire romain. Donc on invite les auditeurs et les auditrices qui n'auraient pas écouté cette première émission à aller sur le podcast en allant sur le site effectivement de Radio Présence, en tapant un jour un livre, un auteur, pour entendre ce premier podcast de Jean-Claude Voisin et pour ensuite prendre cette deuxième émission pour en reparler. Alors on en était aux martyrs. Ce martyr, donc, ils sont faits prisonniers, ils viennent vers Rome. Qu'est-ce qui leur arrive à partir de là? Parce que c'est une histoire quand même assez folle. Et comment ils arrivent après à Arles-sur-Tech? Parce que c'est ça qui est intéressant.
Oui. Alors écoutez, vous savez, l'histoire des légendes de saints fait partie d'une grande tradition de l'Occident chrétien, surtout, on va dire, dans les premiers siècles de la naissance et de l'expansion du christianisme à travers nos territoires. Et que ça soit l'exemple de cette légende écrite concernant nos deux martyrs et d'autres, on a souvent des canevas qui sont stéréotypés, c'est-à-dire des scénarii qui étaient mis en place dans les scriptoriats des grandes abbayes ou des grands archidiocèses et qui vont reprendre à peu près un scénario identique. Et, on voit jusqu'au XIXe siècle, on va réécrire cette légende dans laquelle il y a un fond de vérité, certainement, mais qui va être enréolé de toute une mise en scène que par moments je trouvais un peu hollywoodienne. Alors ne vous offusquez pas quand je dis ça, mais on pourrait très bien, un réalisateur peut trouver là, vu les détails, de quoi écrire très facilement un film documentaire fiction sur ces deux personnages. Alors ces deux personnages, alors déjà, j'ai regardé aussi ce que le manuel, qui sont des références de l'archéologie chrétienne, qui sont dirigées par le Vatican, disent sur ces personnages. Donc les chercheurs qui ont écrit sur ce sujet, voilà, ne sont pas d'accord sur exactement les conditions dans lesquelles ils sont arrivés à Rome. C'est où ils ont été faits prisonniers, ce qui peut être un cas très vraisemblable, parce qu'il y a eu des milliers de prisonniers pendant 400 ans qui vont être faits par les légions romaines dans leur lutte contre les empires perses sur la ligne de front de Mésopotamie, donc de l'Irak, et qui ramenaient souvent dans ce qu'on appelait le triomphe de l'empereur ou du généralissime qui rentrait à Rome et qui faisait son entrée dans Rome avec le butin. qui a été récupéré, mais aussi les prisonniers enchaînés. Alors, il y a cette première version, et la deuxième, ça peut être aussi des ouvriers du port d'Ostie, je le disais, qui ont pu être faits prisonniers à des époques dans ce temps de 250 à 260 après Jésus-Christ, où c'était la valse des empereurs romains. Il y avait des dissidences terribles dans la République romaine, et ces empereurs qui se succédaient, l'un était tolérant et laissait se développer des religions autres que les cultes païens de Rome, comme donc des religions telles que le christianisme, et puis arrivait quelques mois après, l'empereur était renversé, arrivait un autre empereur qui, lui, était un intégriste de première classe et persécutait de nouveau, par exemple, les chrétiens. Et il y aura comme ça une succession de deux ou trois empereurs à cette époque des années 250 après Jésus-Christ. Et quoi qu'il en soit, nos deux personnages sont emprisonnés en 251, ils sont relâchés quelques mois après parce que arrive un nouvel empereur, puis ils sont Philippe l'Arabe, et ils sont relâchés donc par ce Philippe l'Arabe, ils sont repris quelque temps après par un empereur intégriste, si je puis dire, qui va les emprisonner. Et là, la légende écrit que, étant emprisonné, il devait finir, comme c'était la mode, c'est-à-dire servir de spectacle au peuple de Rome, qui était friand de ce type d'amusement, où on réunissait ces martyrs, ces prisonniers, quels qu'ils soient d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas que des prisonniers religieux, dans le Colisée à Rome. Et là, on lâchait des ours, des lions. Et la légende dit que la veille de leur persécution, les animaux qui se trouvaient dans les cages sous le Colisée sont tous morts. C'était un signe du destin. L'empereur est fou de rage parce qu'il perd la face d'une certaine façon. Il devait décommander le spectacle qu'il offrait à son peuple pour lui faire oublier d'autres misères, et sur ces entrefaits, eh bien, il décide que la persécution aura néanmoins lieu, qu'on amènera les deux Perses au centre du Colisée, de l'arène, et que ce sont des gladiateurs qui les exécuteront. Toujours est-il, c'est que de manière connue par les textes, un voisin du Colisée avait l'habitude de venir récupérer les corps de ces pauvres personnes martyrisées qui restaient là sur le sable du Colisée, et de les enfermer, de les inhumer dans une catacombe qui se trouvait pas très loin. Puis, au IVe siècle, la religion chrétienne a été instauré à Rome, un empereur s'est converti, Constantin, et on va donc d'une certaine façon célébrer un certain nombre de personnages qui se retrouvaient regroupés dans ces ossuaires des catacombes de la ville de Rome. Et proche de là, donc on va au-dessus de la catacombe, on va dans un cimetière nouvellement aménagé, on va construire la première petite basilique qui sera déjà dédiée au IVe siècle, à la fin du IVe siècle, une petite basilique qui sera dédiée à Saint Abdon et Sénène, avec un cénotaphe, c'est-à-dire ce faux cercueil qui est en surface mais qui ne renferme pas de corps. Le corps est inhumé sous cette espèce de monument, hein, mais qui ressemble, on va dire, à un cercueil posé sur un socle. Et ce cénotaphe va reprendre déjà des vues, nous dit les archéologues qui ont pu voir au début du XIXe siècle encore des vestiges de cette première basilique, qui reprennent des éléments de ce qu'on va appeler la vie d'Abdon et Sénène. Et puis, au 8e siècle, les Hongrois arrivent sur Rome. Il y a des guerres aussi civiles entre les Lombards, entre les peuples de l'Italie. Et le pape Grégoire de l'époque fait rapatrier tous les sanctuaires qui se trouvaient hors des murs de la ville impériale, va les ramener à l'intérieur. Et donc aujourd'hui, c'est dans une basilique, j'ai oublié le nom depuis le temps, mais vous verrez dans l'ouvrage, pour ceux qui s'intéressent, on a transporté, donc à cette époque, au 8e siècle, on va retransporter de l'extérieur à l'intérieur de Rome, dans cette église de Saint-Marc, à l'intérieur de Rome, je le répète, les ossements d'Abdon et Sénène. Et puis,
qui arrive, alors Jean-Claude, alors justement, c'est ça qui est intéressant. Oui. C'est en page 31 de votre livre. Vous évoquez donc dans un chapitre le développement du culte d'Abdon et Sénène en Occident et dans le monde méditerranéen, en parlant de la translation des reliques de Arles et Soissons, donc avant l'an 1000. Hein, et donc vous écrivez, je vous lis. Le 9e siècle assiste en Occident au développement des translations de reliques conservées jusqu'alors à Rome. Les rois et souverains mérovingiens, dès la seconde moitié du 6e siècle, puis les rois et empereurs germaniques, avaient bien compris le rôle des reliques dans la translation du pouvoir. Celles-ci étaient assimilées au bon fonctionnement spirituel et temporel de leur royaume. Les reliques renforcent leur centre de pouvoir. En Italie, les Lombards, une fois convertis, vont en user, voire en abuser. Ils seront considérés comme de véritables prédateurs de reliques. Vous écrivez ce terme, de véritables prédateurs de reliques.
Je ne l'ai pas inventé.
Voilà. Le roi Lombard, vous écrivez toujours, Aistulf, donc en 756, dans son extension territoriale vers Rome, s'empare de reliques déposées dans les cimetières suburbains de Rome et les emporte dans sa capitale. Les papes des Pascal Ier vont bien le comprendre et vont reprendre eux aussi cette pratique. Et alors, vous parlez de ces premières reliques, donc de Saint-Abdon et Sainte-Sénène, à Soissons, donc en France, hein, où étaient sacrés les rois de France, donc une volonté effectivement royale. Donc on voit en fait, et c'est ça qui est très intéressant dans votre ouvrage, c'est comment ces reliques deviennent un véritable enjeu. On l'a bien vu au début du mois de décembre, quand il y a eu la réouverture donc de Notre-Dame de la cathédrale à Paris.
Bien sûr.
Lorsqu'on a présenté effectivement le travail des pompiers effectivement pour aller chercher les reliques. Voilà. Et on voit bien comment, alors là on est au 21e siècle, mais on voit bien comment cette importance des reliques, et c'est ça qui est bien, qui est le fil rouge dans votre ouvrage, c'est cette importance des reliques et comment aujourd'hui, à Arles-sur-Tech, on a cette procession qui a lieu chaque année, donc le 30 juillet. Donc on incite et on invite vraiment les gens à lire votre ouvrage, Jean-Claude Voisin, La Perse et l'Occident chrétien, histoire des martyrs perses, Abdon et Sénène, donc dans la collection L'Iran en transition, pour aller voir cette procession. Je ne doute pas que Philippe Subercase ira le 30 juillet donc, à Arles-sur-Tech. Je pense qu'on le verra là-bas. Il nous fera un petit photoreportage qu'on fera l'année prochaine. Ouais. Mais voilà. Et ça, alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment c'est arrivé à un moment donné à Arles-sur-Tech. Pourquoi Arles-sur-Tech?
Nous y arrivons. Et je signale que, alors, quand on dit, dans le livre des martyrologues de l'Église romaine, la fête est le 30 juillet. Mais pour des raisons que vous comprenez pratiques, le culte et donc la procession vont se dérouler le dimanche qui est le plus proche du 30 juillet. Donc vous vous renseignez avant sur Internet, sur le site de la mairie d'Arles-sur-Tech, T-E-C-H, qui se trouve à côté d'Amélie-les-Bains, et vous verrez si c'est le dimanche deux jours avant, peut-être le 30, ou deux jours après.
Deux jours après,
par exemple. Voilà. Mais on reviendra sur cette procession qui est magnifique, c'est remarquable.
Il y a des photos. Comment... Alors, c'est ça qui est bien dans votre ouvrage, je le précise, oui. C'est que votre ouvrage est très très riche en photos. Vous avez pris des photos, notamment de tout un tas d'églises, pour montrer les différents cultes qui sont voués à Abdon et Sénène. Et moi, j'ignorais qu'en France, il y avait autant d'églises dans lesquelles on trouvait des représentations d'Abdon et Sénène, soit sur des vitraux, soit sur des statues. J'avoue que j'ai été assez stupéfait, puisqu'ici on est à Lourdes, vous savez qu'à Lourdes on fabrique donc on a une fabrique donc de statues, et moi je l'avais visité cet été et je n'ai pas vu les statues d'Abdon et de Sénène, d'où l'intérêt de votre ouvrage.
D'accord, oui, parce que je pense que le culte petit à petit dès le XVIIe siècle va se perdre. C'est la notion qui était, il y a eu plusieurs périodes dans l'ouvrage, je parle de ça, entre la naissance du culte en Occident, en Catalogne, qu'elle soit espagnole ou française aujourd'hui, à la fin du Xe siècle, il y a eu des périodes au XIVe, XVe siècle, il y a eu une recrudescence de l'intérêt pour ces deux saints. On en retrouve à la fin du XVIe, début du XVIIe siècle, pareil, en Alsace par exemple. Et puis après, je pense que le XIXe siècle va petit à petit effacer la mémoire de ces deux personnages, parce que dans ma quête sur le terrain de renseignement, d'information, j'arrivais dans des paroisses, déjà je demandais dans la rue ou j'allais à la mairie, et les habitants eux-mêmes, même des responsables, maires par exemple, ne connaissaient rien du tout. Alors moi j'avais une mention, je disais, mais écoutez, il doit y avoir dans l'église une bannière, ou il doit y avoir une petite statuette, et par exemple les maires ne savaient pas du tout que ça existait, encore moins qui étaient ces deux personnages. Donc voilà peut-être pourquoi aujourd'hui, y compris dans la fabrique, dans l'atelier d'art de Lourdes, vous n'avez pas trouvé de représentation de ces deux.
D'accord.
Mais alors ils arrivent, ils vont arriver à Arles-sur-Tech. Pourquoi ? Parce que là, il y a une abbaye clunisienne qui est naissante, et pour, a priori, si vous voulez, développer sa notoriété, l'abbé de l'abbaye va trouver le comte de Catalogne, qui était le féodal qui supervisait ses territoires, et lui dit, écoutez, ça serait bien si on allait à Rome pour chercher des reliques, il ne savait pas de quel type de reliques, mais si on allait à Rome pour chercher des reliques, peut-être qu'on aurait un phénomène d'attractivité qui pourrait grandir. Et donc, à Rome, c'est là où on voit une autre stratégie qui n'a rien à voir avec celle du comté de Catalogne, c'est que le Vatican va offrir des reliques de ces martyrs d'origine perse. Et je vous ai dit aussi pourquoi il y avait eu cette volonté, parce qu'il fallait montrer aussi la reprise en main de territoire par l'Église romaine sur le monde islamique qui avait été conquérant et qui commençait un peu à reculer en Occident timidement du côté des Pyrénées, avant de se cantonner pendant encore quatre siècles sur l'Andalousie en particulier. Et donc, la légende qui va être en plus historiée au XIVe siècle, et là, j'invite ceux qui verront l'ouvrage, que ce soit en couverture ou à l'intérieur, j'ai mis deux reproductions de retables du début XVe siècle, dont l'un est conservé dans le musée catalan de Barcelone, mais pas à Barcelone, à Terrassa, qui est à 7-8 km de Barcelone, dans une église paléochrétienne, et l'autre qui se trouve dans un château pas très loin de chez vous, pour ceux qui nous écoutent depuis la région de Lourdes, puisque c'est dans le château de Castelnau-Bretenoux, qui est sur la commune de Prudhomme, donc c'est pas très loin de Tarbes, tout ça, un monument.
C'est quel département,
Alors, je crois que c'est le Tarn.
Le Tarn, alors on va laisser, parce que c'est Diego Arabal qui est tout le temps notre chercheur, effectivement,
pour regarder. Chercher la commune, de Prudhomme, P-R-U-D-H-O-M-A-T. Ah,
on va le chercher.
Le château, parce que le château de Castelnau-Bretenoux, qui fait partie des châteaux qui sont gérés directement par les monuments historiques, les monuments français, vaut aussi déjà la balade. Et là, il y a un retable extraordinaire qui représente comme une bande dessinée.
C'est le Lot. C'est le Lot.
C'est le Lot.
Département du Lot.
C'était entre le Tarn et le Lot, vous voyez. Parce que j'y suis allé, je vois bien en voiture, mais bon. Et il y a là donc ce retable qui est comme un livre de bande dessinée ouvert avec toute l'illustration de ce que la légende sur la persécution et le transport des reliques à partir de Rome avec un âne dans un tonneau à double fond pour pas que les bandits de grand chemin s'emparent de ces reliques vont arriver à Arles pour débarquer déjà sur un petit port de la Catalogne, tout ça est dit dans le livre, pour après finir dans cette fameuse abbaye qui était à l'origine de l'initiative de la quête de ces reliques. Cette abbaye romane qui existe encore avec son cloître magnifique dans laquelle on célèbre donc autour du 30 juillet la commémoration de ces deux saints perses.
Et alors Jean-Claude, je vous coupe, ce qui est intéressant dans votre ouvrage, c'est toutes les photos que vous mettez là, je vais en citer quelques-unes, donc des représentations que vous avez faites. Alors à Villers-la-Fée, c'est dans le département de la Côte d'Or, l'église paroissiale Saint-Nicolas avec le statuaire de Saint-Abdon placé antérieurement, vous l'écrivez, dans la chapelle Saint-Victor, donc du XIe siècle. Transange, dans le département de la Nièvre, l'église Saint-Abdon et Saint-Blaise. Ensuite, alors c'est très intéressant, là vous êtes à Arles-sur-Tech, vous êtes avec Ahmad Cambiasi-Masque devant la Sainte Tombe.
Qui m'a révélé.
Exactement, qui vous a révélé ça devant la Sainte Tombe, donc à Arles-sur-Tech, comme quoi nul n'est prophète en son pays.
C'est magnifique, on a besoin des autres pour grandir.
Exactement, on est bien d'accord. Dans le département de l'Indre, à Gournaye, la fête annuelle de Saint-Abdon, qui elle par contre a lieu en mai, où on voit également une photo avec une procession, à Messeil-sur-Grosne, dans le département de Saône-et-Loire, l'église Saint-Germain, avec la photo que vous mettez du statuaire de Saint-Abdon. Enfin, c'est quand même assez incroyable de voir un peu partout en France. Alors c'est vrai qu'on ne sait pas forcément à quoi correspondent effectivement ces statues quand on rentre dans une église, mais c'est ça qui est particulièrement intéressant, c'est la richesse iconographique qu'il y a effectivement dans votre livre. Par exemple aussi, là vous dites Messac dans le département d'Ille-et-Vilaine, là on est de l'autre côté, en Bretagne,
très loin, bannière
de pèlerinage du XVIe siècle dédiée au Saint-Martyr, qui est absolument extraordinaire, mais qui est magnifique.
Elle est
en velours. Ensuite, toujours à Messac dans le département d'Ille-et-Vilaine, l'église Saint-Abdon et Saint-Sénène. Enfin, à Ronchères, dans le département de l'Yonne, l'église Saint-Fiacre, avec les peintures murales du chœur de 1619, avec le détail des deux martyrs. On constate que dans tout un tas d'églises de notre pays, et pas qu'à Arles-sur-Tech, où il y a effectivement cette procession donc en pays catalan, là dans les Pyrénées-Orientales, il y a eu un véritable culte à Abdon et Sénène, et vous le disiez à l'instant, au XIXe siècle. Et ben voilà, tout tombe dans l'oubli, et votre livre y arrive à point, La Perse et l'Occident chrétien, histoire des martyrs perses, Abdon et Sénène, Jean-Claude Voisin. Il remet un peu, sans vouloir faire de jeu de mots, l'église au centre du village.
Et les pendules à l'heure.
Voilà, et Abdon et Sénène, effectivement, au centre du village, pour rappeler qui étaient ces deux martyrs. Alors, voyez, Philippe Subercas, vous demandiez des émissions pour Noël. Vous ne trouvez pas que c'était intéressant de parler de ces deux martyrs ?
Tout à fait. Bravo, bravo Philippe. Parce que on donne comme
c'est
des
bravo à Jean-Claude Voisin. Et surtout à Armand.
Oui, ça c'est sûr, mais il fallait le trouver, quoi.
Mais surtout, moi, ce que je trouve intéressant, c'est le fait que ce soit Armand Cambiasi-Masque, un persan, un chercheur persan, qui informe Jean-Claude Voisin, qui est français, du culte d'Abdon et Sénène en France.
voyez,
c'est incroyable.
On doit beaucoup à la Perse.
Comme quoi, on doit beaucoup à la Perse. Et ça montre quand même, vous voyez, aujourd'hui, on va reprendre l'information actuelle, on parle de l'Iran, vous voyez, en disant, voilà, pays chiite, etc. Tout. On n'imagine pas les liens qu'il y a entre la chrétienté d'Occident, effectivement, et d'Orient aujourd'hui. Et je trouve que ce livre, voilà, dans cette période de Noël, on va parler de paix aussi, parce que Noël, c'est quand même une période de paix. Ça montre bien comment, à un moment donné, ce livre peut arriver à réconcilier des gens, à les faire se parler entre eux. Hein. On voit cette photo qui est très belle, moi, je trouve, de Jean-Claude Voisin et de ce chercheur iranien, donc devant la Sainte Tombe à Arles-sur-Tech, donc un Français et un Persan. Et je trouve que cette image, elle est très symbolique dans ce livre, Jean-Claude Voisin. Elle est très, très symbolique. Oui.
Alors vous savez, pour je vais rebondir, puisque vous parlez de paix dans ces moments de Noël, moi qui ai parcouru l'Afghanistan, le Liban, et puis depuis 15 ans, tous les ans, j'étais encore il y a un mois et demi, l'Iran. Ce qu'il faut quand même dire pour nos auditeurs, c'est que dans tous ces pays, il y a eu des moments d'harmonie entre les peuples, par exemple les Juifs de Babylone, qui sont prisonniers à Babylone, qui sont délivrés par un souverain perse, Darius, donc un empereur achéménide, c'était le premier des grands empires perses, qui va les ramener à Jérusalem, qui va financer la reconstruction du temple de Salomon. Il y a nos chrétiens qui, dès 300 après Jésus-Christ, s'installent, certains prédicateurs qui arrivent de Syrie s'installent en Iran. Aujourd'hui, on en a encore. Je voulais signaler aussi les Assyro-Chaldéens à côté des Arméniens qui ont aussi des églises dans Téhéran. Mais ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que dans toute cette histoire mouvementée de l'humanité, vous avez des périodes de paix et des périodes de persécution. Et ça n'a pas été linéaire. C'est-à-dire que la présence des communautés... Regardez ce qui se passe en Syrie. Vous aviez les communautés qui étaient, on va dire, protégées par le régime politique des Assad. Et puis aujourd'hui arrive une reprise en main, on voit par le nord, des islamistes. Pour l'instant, qui laisse de côté ces petites communautés, mais on ne sait pas ce qui va leur arriver.
Bon, exactement.
Parce que on passe toujours, vous voyez, du chaud au froid, malheureusement, et les communautés, néanmoins des chrétiens d'Orient, alors si je prends l'exemple de l'Iran, se sont quand même considérablement réduites depuis, on va dire, la fin de la Première Guerre mondiale. Bref, c'était une parenthèse, mais il faut quand même le dire.
Il faut quand même le dire, oui, exactement. Tout à fait. Merci beaucoup, Jean-Claude Voisin, d'avoir été notre invité pour ces deux émissions exceptionnelles pour cette période de Noël. La Perse et l'Occident chrétien, histoire des martyrs perses Abdon et Sénen aux éditions L'Harmattan dans la collection Iran en transition, dirigée par Atta Hayati. Merci beaucoup d'avoir été notre invité pour ces deux émissions qu'on va passer en cette période de Noël. Pour aussi rappeler, effectivement, eh bien, que comme vous le disiez, il y a aussi eu des périodes de paix où les différents peuples et les différentes religions et les différentes confessions puissent entendre en selle. On va surtout retenir ce message-là,
exactement.
Effectivement, pour cette période de Noël.
Voilà, eh bien, je dirais à tout le monde, évidemment, un joyeux Noël.
À vous aussi, Jean-Claude Voisin.
Versailles, d'où l'on parle. Et puis, je dis bravo aux deux Philippe pour leur initiative et le fait de partager avec moi, mais ça sera d'autres.
Et je mets Diego dans la boucle parce qu'on est tous les trois
voilà,
là à préparer l'émission.
Pardonnez-moi,
aussi.
Oui, on ne se connaît pas, mais voilà, merci.
Merci beaucoup,
merci
Jean-Claude.
Vous.
Merci beaucoup, Jean-Claude Voisin, d'avoir été notre invité. Bonne fête, merci.
Bonne fête, au
merci.
Peut-être à l'année prochaine.
Et j'espère bien, j'espère bien.
Avec grand plaisir. Et puis, tiens, on fera venir quelqu'un, on fera peut-être une émission spéciale, puisque Philippe Denis, vous êtes intéressé, avec Bruno Gabelleri, qui représente les chrétiens d'Orient ici, dans le diocèse de Tarbes.
Ah, d'accord. Donc, je ne le savais pas. Ah, ben, voilà. Ça serait intéressant d'inviter en même temps Jean-Claude Voisin, donc d'avoir un invité.
Une émission spéciale.
En studio, ouais. Ouais. Ben avec grand plaisir. Jean-Claude Voisin, si vous êtes preneur, on pourra faire une émission très intéressante avec lui. Lui sera en studio et on vous appelle, on retient
magnifique.
Ça. D'accord ?
Volontiers.
Allez, ça marche.
Allez, à
bientôt.
À très bientôt. Merci Jean-Claude.
Joyeux Noël.
Merci, au revoir.
Au revoir. Au revoir.